Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons de Langston Hughes à l'occasion de la ressortie d'un très beau livre, d'un livre incroyable même, j'en dis pas plus pour l'instant, qui s'appelle The Big Sea. C'est l'autobiographie en fait de Langston Hughes. Et comme cet écrivain nous a quittés il y a maintenant bien longtemps, j'ai convié devant le micro de So Sweet Planet pour nous en parler l'éditeur qui a eu cette très bonne idée de nous réoffrir cette autobiographie. Bonjour Antoine Caro.
Bonjour Anne, merci de me recevoir.
C'est avec un grand plaisir.
Et merci, pardon, déjà pour tous ces mots que vous venez de dire qui me touchent énormément.
Je vais en dire d'autres parce qu'en fait ce livre m'a vraiment beaucoup touchée aussi. Et avant de parler de Langston Hughes et de sa formidable autobiographie, donc qui vient d'être republiée aux éditions Segers, Antoine Caro, donc vous étiez, si mes sources sont bonnes, directeur général adjoint de Robert Laffont.
Absolument.
Et vous êtes aujourd'hui le directeur de la maison d'édition Segers. Est-ce que, pour vous présenter à nos auditrices et auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de présentation sur cette maison d'édition Segers et sur ce nouveau départ pour Segers et peut-être pour vous aussi?
Alors, Segers appartenait à la maison Laffont depuis 69. Pierre Segers avait vendu sa maison à Robert Laffont, qui était un ami. Mais il avait fondé sa maison, alors les dates, on peut trouver plusieurs dates pour donner le départ des éditions Segers. Il a fondé les éditions de la Tour en 1938, alors qu'il avait une trentaine d'années environ, pour s'auto-éditer. Il avait écrit des poésies, il avait été refusé par Grasset. Il avait suivi des cours de typographie et son maître en typographie, Louis Joux, qui était aussi un grand lettré, lui a dit « Mais en fait, tu connais la typographie, si tu trouves un imprimeur, tu peux devenir éditeur. » Et il l'a fait. Il s'est édité lui-même.
C'était audacieux.
Et, très audacieux. Et c'est un homme dont la vie est audacieuse, Pierre Segers. Il a édité aussi des amis poètes. Et puis la guerre a éclaté. Il a été mobilisé. Et là, il a une idée qui est sans doute le vrai démarrage des éditions Segers. Il a demandé à son officier supérieur, capitaine je crois, s'il pouvait fonder une revue qui publierait les poètes plus ou moins amateurs issus des rangs de l'armée, en utilisant la franchise postale pour leur demander de lui envoyer leur poésie, des courriers de toutes sortes. Son capitaine, qui était chansonnier, a vu ça d'un bon œil, et Pierre Segers a fondé sa revue qui s'est appelée PC, comme poète casqué, et qui a été millésimée poète casqué 39, 40, 41, et ça a duré jusqu'en 44, parce que à la démobilisation, on lui a fait comprendre de toutes parts que ce serait vraiment bien qu'il continue pour pouvoir proposer un canal pour exprimer la voix de la liberté. Et donc voilà, Pierre Segers est devenu un éditeur pas sous le manteau, mais un éditeur qui publiait des poètes, quoique soumis à la censure, libres. Et une dernière date, alors par exemple, il a publié pendant la guerre déjà Aragon et Éluard. Et la dernière date qui serait peut-être le vrai démarrage des éditions Segers, c'est la fondation de Poètes d'aujourd'hui en 1944. Le premier volume de cette collection qui est devenue mythique, qui proposait une sélection de poèmes, une anthologie, une présentation du poète avec une iconographie. Et Segers a mis au point cette formule avec Paul Éluard. Le premier numéro était consacré à Paul Éluard, écrit par Louis Parot, et ça a été un immense succès au fil des ans, puisque le numéro 1 de Poète d'aujourd'hui s'est vendu à 300 000 exemplaires, voire à plus. Et ça, évidemment, dans le domaine de la poésie, c'était inconnu. On a pu considérer qu'aussi cette collection était un précurseur du livre de poche. Et puis voilà, donc ensuite, ça a duré des années, des recueils, la collection Poète d'aujourd'hui. Et puis, pendant 20 ans, Pierre Segers s'est consacré presque exclusivement à la poésie. Et au bout d'une petite vingtaine d'années, il a élargi sa formule d'édition à d'autres disciplines. Et donc, la collection Poètes d'aujourd'hui a, pour commencer, accueilli Ferré, Brassens et Brel. Alors, ça a donné lieu, bien sûr, à des polémiques, mais ça a eu tellement de succès qu'il a fondé une deuxième collection, Poésie et chansons, qui est devenue assez célèbre elle aussi. Et à la suite de ça, écrivain d'hier et d'aujourd'hui, dramaturge d'hier et d'aujourd'hui, savant, enfin voilà, il a appliqué ça à beaucoup d'autres disciplines. Il a publié des romans et puis ensuite il est devenu un éditeur plus généraliste, mais toujours avec vraiment une assise dans le domaine de la poésie. Son but a toujours été de maintenir un important département de poésie, et puis ouvert sur la culture. Donc là, je vous ai parlé de la collection Un poète d'aujourd'hui qui s'est un petit peu diversifiée. À côté de ça, Pierre Segers a aussi fait des beaux livres, des albums. Il a été le premier, par exemple, à publier Douaneau avec un texte de Sandra. Voilà. Donc pour reprendre votre question de tout à l'heure, c'est un peu dans cet esprit qu'on voudrait aujourd'hui donner un nouvel élan à Segers. C'est la poésie rayonne surtout, continue d'être là par son fond, par des inédits qu'on publiera aussi. On a déjà des inédits prévus en 2022 de Griselidis Real, de Maya Angelou, de la littérature, l'un renvoyant à l'autre, et à côté de ça, des livres illustrés consacrés aux arts en général, à la musique, au cinéma, aux beaux-arts. Oui. Voilà le programme pour Segers.
D'accord. Et donc pour vous, c'est un nouveau départ. Oui, héritage aussi quand même.
C'est vrai que j'ai travaillé chez Robert Laffont depuis 93, donc ça fait pratiquement 30 ans aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, mais... Et donc, Segers était toujours là, m'a toujours accompagné. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une décision différente qui est de redonner une autonomie, une indépendance à Segers pour lui permettre de redéployer ses ailes et devenir un éditeur à part entière qui s'inscrit dans le domaine quand même assez défini que j'ai tenté de vous décrire.
Et donc, dans ce domaine, on comprend déjà que c'est un bel écrin pour ce livre qui vient d'être republié. Est-ce que vous, avant qu'on parle vraiment du livre lui-même, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter Langston Hughes?
Alors, ce qui est très intéressant,
connu en France, en fait.
Un petit mot en guise de préambule sur les rapports entre Pierre Segers et Langston Hughes.
Qui se connaissaient, je crois.
Ils se connaissaient très bien, ils étaient amis même. Et à la fin de l'année dernière, j'ai lu le livre de Colette Segers, qu'elle a consacré à son mari, et qui s'appelle « Un homme couvert de noms ». Il était paru d'abord chez Robert Laffont, et puis il a été republié chez Segers. Aujourd'hui, il est disponible chez Segers.
Couvert de noms ?
Un homme couvert de noms. Sous-entendu propre. Oui,
Nom.
Et en fait, elle raconte la vie de son mari éditeur à travers, on pourrait schématiser en disant, à travers une série de rencontres. Et très très vite dans le livre, et c'est le premier à donner son nom à un chapitre, elle évoque la relation entre Langston Hughes et Pierre Segers. Le lien s'est fait grâce à Léopold Sédar Senghor, qui a proposé à Pierre Segers une anthologie de poésie africaine-américaine. Il y avait dedans des poètes comme County Cullen, Gene Toomer, Langston Hughes. Et ça a intéressé Pierre Segers. Et donc, rapidement, il est entré en contact avec Langston Hughes, qui n'avait pas d'agent, et qui est même venu en France pour régler les questions contractuelles. Comme vous le savez très bien maintenant, ou vous peut-être même le saviez avant, Langston Hughes a vécu en France pendant un certain temps, parlait très bien français, ce qui a facilité leur relation, et les deux hommes sont devenus amis. Ce qui fait que, au-delà de cette anthologie, Pierre Segers a publié en 1947 notre autobiographie The Big Sea, qui était parue en 1940 aux États-Unis. Il a fait entrer Langston Hughes dans la collection Poètes d'aujourd'hui. Il était seulement le quatrième poète américain entré dans la collection. Il a publié aussi une sélection de ses poésies dans la collection Autour du monde et lui a confié la direction de deux anthologies consacrées à la poésie noire américaine et une autre à la poésie africaine et malgache, il me semble.
Ah oui.
Donc, ils ont cheminé côte à côte pendant des années et Colette Segers raconte même que Langston Hughes avait incité Pierre Segers à à faire des tournées et à rencontrer des gens pour dire de la poésie. Parce que lui, c'est ce qu'il faisait. Et il faisait ça aussi en Europe. Et on sait que Langston Hughes, il a été le premier à dire sa poésie au son du jazz, en étant accompagné par des musiciens, enfin un des premiers à le faire, bien avant là, que ce soit à la mode à Greenwich Village dans les années 60. Et il a incité Pierre Sagers à en faire de même, ce que Pierre Sagers a fait. Donc voilà, un lien très fort entre ces deux hommes. Et pour revenir à notre The Big Sea, Pierre Sagers l'a publié en 1947, comme je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas qui a traduit le texte. Mmh. Ça, c'est un point un peu étonnant. J'ai fait une petite note indiquant que malgré nos recherches, nous n'avions pas réussi à retrouver le traducteur. En plus, nous n'avons pas les archives, le vieux contrat et autres. Donc voilà, si quelqu'un se manifeste et qu'il est l'ayant droit du traducteur de cette autobiographie, bien entendu, il sera accueilli avec beaucoup de bonheur pour échanger.
Oui. Donc, parce que quand il est, d'après ce que j'ai lu, mais il faut dire que ça aussi, c'était quand même audacieux en 47, quand on le lit aujourd'hui. C'était quand même assez révolutionnaire et émancipé comme pensée, quoi. Oui, donc, de le publier en France...
Vous avez raison.
Bon, je ne sais pas s'il y avait grand monde qui était très réceptif et non. Même qui comprenait, le contexte et tout ça.
Malheureusement, vous avez si raison que ça explique le relatif insuccès du livre.
Oui, c'est ça.
Le livre est passé un peu inaperçu. Donc, pour revenir et terminer avec ce que dit Colette Sagers...
Oui.
Elle dit, bah, y a des bouquins qui ratent leur public, c'est la vie de l'édition, mais dans certains cas, on en est vraiment désolé. Et pour celui-ci, elle dit, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc en lisant ça, je me suis dit, il faut absolument que je lise ce bouquin.
Ah oui, c'est ça.
Donc je me le suis procuré sur Internet, et voilà, je vous le montre là.
Oh, incroyable.
Voilà l'édition originale de The Big Sea qui avait été publiée sous le titre « Les grandes profondeurs ». Alors j'ai choisi de conserver le titre « The Big Sea ». Parce que
dommage
je pense
pour nos auditrices auditeurs qui n'ont que l'audio,
on
ne voit pas.
Un vieux bouquin tout parcheminé, tout piqué,
ouais.
Et qui a eu du mal à résister à ma lecture d'ailleurs, et au travail qu'on a fait avec la fabrication, enfin qui se tient à peu près, et qui était beau, hein, c'était une belle maquette. Et le livre, je pense que c'est le relatif succès du livre en français qui a fait que le titre « Les grandes profondeurs » n'a pas marqué. Et que quand les spécialistes de Langston Hughes, même en France, se réfèrent à l'ouvrage, souvent, même s'ils mentionnent l'édition Sagers 47, ils l'appellent de son titre américain « The Big Sea ». Donc voilà, j'ai conservé le titre original de « The Big Sea ».
Le titre est resté.
Voilà.
D'accord.
J'ai pas tout à fait répondu à votre question précédente. Pierre Sagers, comme on se le disait tout à l'heure, et c'est clair de par son parcours pendant la guerre, était un éditeur clairement engagé. Et à travers ces différentes collections, et notamment la collection de poésie qui traduisait des poètes étrangers autour du monde, il a toujours voulu donner la parole à des poètes, à des voix qui pouvaient être victimes d'ostracisme, de répression, et, ou de, même d'obscurantisme, toutes sortes de violences à travers le monde. Et pour Langston Hughes, d'une certaine manière, en publiant cette autobiographie, il participait à un combat.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un livre vraiment riche dans beaucoup de domaines, en fait. Hein, et, parce qu'en fait, Langston Hughes, donc, au travers de cette autobiographie, donc, de sa vie, enfin pas de sa vie, de sa vie jusqu'à son succès, en fait, on peut dire, non ? Parce qu'en fait, au moment où ça s'arrête, finalement, moi, je suis restée un petit peu sur ma fin, j'aurais eu envie qu'il...
Il s'arrête en 31.
Oui.
Il s'arrête à la fin de la Harlem Renaissance. On y reviendra tout à l'heure, peut-être.
Oui, on va y revenir.
Mais il l'a écrite en 40. Il a mis... Je crois que... En fait, il a eu du succès très jeune. Parce que très vite, il a envoyé ses poésies, notamment à la revue de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Et la revue de la NAACP, The Crisis, a publié très vite les poésies de Langston Hughes. Et non seulement il a été publié très jeune, mais il a eu rapidement aussi des prix. Et quand il est revenu aux États-Unis après les voyages qu'il a pu faire à la fois comme matelot sur les bateaux de commerce, on va en parler, et des longs voyages en France et en Italie, il a incarné mieux que tout autre et pour longtemps la Renaissance noire de Harlem et sa poésie.
Même donc... s'il a de la distance par rapport à oui. ce mouvement, on va en reparler un petit peu après aussi. Hein. Oui.
Et il s'inscrit dans un certain mouvement. Alors, il a eu vraiment une célébrité acquise assez jeune. Et donc, dès l'époque où il a été publié par Knopf pour son premier recueil The Weary Blues, on lui a demandé de raconter un peu sa vie. Et pendant longtemps, il voulait pas se pencher en arrière. Et d'ailleurs, alors là, à chaque fois, c'est comme si je tirais des tiroirs, mais il commence son livre par une scène extraordinaire où alors qu'il prend le large comme matelot sur un bateau, il a décidé d'emporter avec lui tous ses livres. Et en fait, il veut se délester de son passé. Les livres lui rappellent trop son passé. Il a envie de se libérer, de tous les liens plus ou moins douloureux qu'il a pu avoir, que ce soit des liens familiaux ou des liens avec sa jeunesse ou le passé de sa famille. Et ben, il jette tous ses livres à la mer.
Oui, c'est une scène incroyable. Ouais. Et il le dit lui-même avec le recul que c'était un peu théâtral.
Un peu théâtral. Et là, il se sent libre. Il a largué les amarres, pleinement largué les amarres. Donc, ce geste de ne pas se retourner en arrière a fait qu'il a mis un certain temps à écrire. Bon, en même temps, 40 ans, ça reste assez jeune pour écrire son autobiographie. Et il l'a fait suivre d'une autre qui n'est pas traduite encore en français. Peut-être le ferons-nous un jour chez Segers. Et qui donc s'appelle « I wonder as I wonder ». Donc en gros, je m'interroge alors que je chemine. Enfin, bon, très mauvaise traduction. Et qui raconte les années 30 jusqu'en 40, donc des années beaucoup plus politiques, puisqu'à cette époque, il a fait un voyage en URSS avec des auteurs engagés, il a été aussi correspondant pendant la guerre d'Espagne, et voilà, c'était ces années politiques qui ont suivi justement la rupture avec son mécène et qui l'ont en quelque sorte radicalisé politiquement.
Donc il traverse toutes sortes d'épreuves en fait durant toute cette première période qui est déjà assez longue en fait, qui est couverte par cette autobiographie. Mais le ton dans cette autobiographie, c'est vraiment ce qui m'a étonnée, c'est que ça reste toujours léger. Avec même de l'humour, alors que franchement, le contexte, l'époque, ce que lui traverse, c'est quand même dur, c'est douloureux, il y a de quoi être très en colère. Et lui, alors, je me suis demandé justement, mais vous avez en partie répondu, à quelle époque de sa vie est-ce qu'il l'avait écrite, parce qu'en fait, je me demandais, est-ce que c'est le recul qui lui permet d'avoir ce regard léger, cette distance, cette autodérision aussi, ou est-ce que c'était son ton habituel ?
C'était son ton habituel. Un ton, je crois qu'on voit dans sa prose déjà une volonté d'écrire avec le plus de simplicité et de naturel possible, mais qui, à mon sens, s'accompagne de profondeur. Dans ce sens-là, le titre original français était bien choisi. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire sur ce point que vous évoquez là et qui est absolument fondamental. Quelque chose que j'ai repris dans une note de l'éditeur que j'ai ajoutée à l'ouvrage, qui est expliquée par le biographe de Langston Hughes, qui s'appelle Arnold Rampersad, et je crois qu'il l'exprime très bien. Alors je vais peut-être vous lire ce qu'il dit. En fait, il dit que cette manière d'évoquer l'adversité, elle est conforme tout simplement à l'esprit du blues. Et qu'en fait, c'est la manière typique des Noirs américains d'affronter le terrible rejet dont ils peuvent être victimes le plus souvent. Et qu'en fait, la manière traditionnelle, c'est un certain détachement, une certaine ironie qui passe aussi par une création artistique et qui permet de supporter et en même temps, parfois, de triompher de l'adversité. Donc voilà, je voulais résumer, finalement, je ne vous le lis pas, mais ça, c'est ce que dit Rampersad. C'est l'esprit du blues. Et il y a un deuxième aspect, c'est que, et ça, vous l'avez vu aussi, je pense, il y a quelque chose... Alors, certains lui ont reproché ce ton un peu joyeux, humoristique, permanent, en disant, voilà, vous évoquez quand même des choses assez graves, et certains lui ont reproché, y compris des Blancs, de ne pas être assez critique envers les Blancs. Mais il y a quelque chose, autant Langston Hughes est un poète racial, fièrement racial, engagé, qui professe toujours son amour des Noirs américains, de la culture noire américaine, autant il est capable de critiquer comme il se doit toutes les exactions qui sont commises envers les Noirs, autant il n'y a pas de rejet global des Blancs.
Et ça commence
par une scène d'enfance où il est mis dans un lycée où il est tout de suite victime de racisme de façon extrêmement pénible.
Mais je vais le citer.
Mais il a un petit camarade blanc qui n'est pas raciste, qui lui continue de lui témoigner son amitié et se dit « Je me suis donc rendu compte que tous les Blancs n'étaient pas mauvais. Donc si un Blanc n'était pas mauvais, beaucoup d'autres pouvaient n'être pas mauvais, etc. » Ça a toujours été sa vision. Donc c'est intéressant parce que Langston Hughes, qui a été le fer de lance de la Renaissance de Harlem et qui a incarné l'auteur noir américain, non seulement aux yeux des écrivains et du public de lecteurs noirs américains, mais aux yeux presque, j'allais dire, du monde, a commencé peut-être à être démodé au moment où le mouvement pour les droits civiques a pris de l'ampleur dans les années 60, et tout d'un coup on a pu lui considérer de n'avoir pas une attitude peut-être assez radicale.
Assez radicale, oui.
Lui a toujours conservé la même attitude, qui a pu paraître trop engagée à certains dans les années 20 ou 30, et pas assez à d'autres, mais avec le recul, maintenant, beaucoup admettent qu'il était tout simplement peut-être au bon endroit, toujours.
Et en fait, ce que j'ai trouvé passionnant avec ce livre aussi, c'est qu'il nous emmène en immersion dans plusieurs époques et à différents endroits, au bon endroit, au bon moment, on peut dire. Mm-hmm. En fait, en immersion, donc, aussi dans une époque, dans des lieux, dans un contexte historique dont nous sommes séparés par à peu près un siècle maintenant.
Oui, c'est exactement ça.
Et au travers en fait, de sa vie quotidienne, on peut voir ce qui a évolué, ce qui n'a pas beaucoup évolué, et puis le contexte culturel aussi. Et en fait, en faisant il y a quelques jours une recherche dans les archives du journal Le Monde, j'ai trouvé un article avec une interview de Langston Hughes datée du 21 novembre 1964. Donc on est en plein dans les droits civiques aux États-Unis, mais là c'est dans Le Monde en France. Et le journaliste raconte, donc je le cite, et en fait il retransmet la rencontre avec Langston Hughes et il dit, finalement me dit-il, j'ai trouvé un job. C'était au Grand-Duc, rue Pigalle, donc il en parle dans l'autobiographie, où Ada Smith, que tout le monde appelait Bricktop, attirait chaque soir Maurice Chevalier ou Aragon, Josephine Baker ou Isadora Duncan. Quand même, c'était une époque foisonnante de talents. Et il dit, moi j'étais à l'écart, je lavais la vaisselle, mais j'écoutais et je regardais. L'orchestre avait Buddy Gilmore comme batteur et j'encaissais cette musique sans jamais me lasser. Le jazz me frappait brutalement et je n'avais qu'à ouvrir les yeux pour voir comment les autres, des Blancs, l'accueillaient. Je vivais dans le jazz. Sur des bouts de papier, j'inscrivais quelques phrases, des images directement venues du jazz, dont elles avaient le rythme. Le lendemain, je relisais ce que j'avais écrit. Si cela ne me plaisait pas, je jetais le papier. Toute ma poésie était inspirée du jazz, était du jazz. Mais en fait, ça, j'ai trouvé que ça ne se ressent pas tant que ça, je trouve, dans l'autobiographie, cette passion du jazz. C'est beaucoup le monde littéraire, les revues.
Et c'est vrai qu'il évoque pas énormément la musique, sauf qu'à d'ailleurs, à un moment donné, il y a une scène qui est assez drôle et qui se situe ni au Grand-Duc ni dans les cabarets de Harlem, pas le Cotton Club, parce qu'il explique qu'il n'aime pas le Cotton Club, qui est un club Jim Crow, qui refuse les Noirs, etc. Mais en fait, lui, il aime les clubs authentiques, et puis surtout, il aime les house rent parties, les fêtes qui avaient lieu dans les appartements, où on trouvait des Fats Waller et autres génies qui faisaient leurs premières armes.
Il y a des magnifiques descriptions avec tous les grands noms de l'époque.
Donc ça, il en parle un peu, mais il en parle beaucoup pour l'ambiance, pour la nourriture, pour l'esprit de fête. La musique, il en parle un peu moins, mais il y a une scène peut-être qui répond à ce que vous dites là, c'est qu'il dit que comme il s'inspire, alors là, vous parliez du jazz en le citant, mais ça a commencé avant le jazz avec le blues, puisque The Weary Blues, il intègre le blues dans sa poésie, c'est-à-dire dans la prosodie. Ça, des spécialistes en parleraient mieux que moi, mais il y a quelque chose dans la répétition et dans le rythme qui s'inspire directement de la technique musicale du blues. Et aussi, il intègre l'esprit du blues, un certain vocabulaire, une certaine vision du monde qu'on évoquait plus tôt, un certain langage, un certain vocabulaire. Donc ça a été révolutionnaire. Et ça a été révolutionnaire non seulement aux États-Unis, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que par ses rencontres, notamment avec Nicolas Guillén à Cuba, il a eu un impact sur la littérature sud-américaine, puisque peu de temps après sa rencontre avec Langston Hughes, Nicolas Guillén a écrit un livre qui s'appelle Motivos de Son, où il a appliqué la même chose avec la musique cubaine. Et puis, pendant des années, c'est peut-être encore le cas, mais en tout cas, pendant des années, Langston Hughes a été l'auteur de poésie américain le plus traduit en Amérique latine. Donc voilà, le blues, le jazz, le son, ça, du point de vue de l'adaptation à la poésie, ça a été une part majeure de sa création. En ce qui concerne la musique en elle-même, il y a quelques scènes tout de même où il raconte que quand il faisait la plonge dans les cabarets, il attendait à 4h du matin et puis finalement de moins en moins tard parce que ça avait tellement de succès que finalement les musiciens qui normalement arrivaient de tout Paris au bout de la nuit, enfin tout Montmartre plutôt, pour jouer, ben, ils arrivaient de plus en plus tôt, oui. Et puis c'était l'after entre eux, oui. Et puis finissaient au champagne au petit-déj. Et là il évoque un véritable plaisir, il y a une ou deux scènes comme ça, mais il y a une scène qui est marrante où il dit qu'il a des airs de jazz dans la tête et il les chantonne en marchant dans la rue parce que comme ça et voilà, il crée sa poésie en même temps et il se fait reprendre par quelqu'un qui l'entend dans la rue, oui. Et qui lui fait comprendre
qui est de l'autre côté, ouais, qui vient le voir, voilà,
et qui lui fait comprendre que ça va pas du tout son chant et donc il se dit bon, je suis pas,
qui lui demande, oui, s'il va mal,
oui,
c'est ça,
c'est
non
ça.
qui pense
ça,
qu'il,
oui,
est en train,
oui,
de gémir,
oui,
et
oui.
Il dit que ça l'a calmé
et
de...
du coup il se dit bon, c'est... voilà. Donc lui n'est certainement pas un musicien.
Oui, c'est assez, ouais, drôle cette scène. Ouais. Et par rapport au blues d'ailleurs, pour les amateurs, je voulais signaler, parce que si certains ont, comme moi, quelquefois cherché des choses sur Bessie Smith,
oui,
et il y a très peu de choses sur Bessie Smith, et en vidéo encore moins, il y a 2-3 trucs où on la voit toujours à s'accouder à un bar, ivre morte,
ouais,
et une vie aussi bien, bien difficile, Bessie Smith,
ouais,
et elle est aussi présente dans cette autobiographie, puisqu'elle c'était une contemporaine.
Absolument.
Et ils se croisent dans les soirées.
Elle est citée assez souvent,
oui,
ils se croisent dans les soirées, ils racontent une scène assez marrante,
avec
où
la
en fait, voilà, oui, une cantatrice qui se met à chanter à la fin de la soirée, et Bessie Smith, ignorant que c'était une énorme vedette de l'opéra, lui dit « Ah, mais vous avez pas mal de talent, vous ne devriez pas abandonner.
»
Et il y a une ou deux scènes avec Bessie Smith,
et
entre autres.
Alors, tout au long, ben là, ça va reprendre un petit peu, même beaucoup, ce que vous disiez, tout au long de ce récit, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on le sent très ouvert, très curieux. Il observe beaucoup, et on a l'impression qu'il se sert, en fait, de toutes ces observations pour cultiver une forme de sagesse, même très jeune. Par exemple, il raconte qu'il déménageait souvent en fonction des emplois que sa mère trouvait.
Mm-hmm.
Et à un moment, il doit aller dans une école donc pour enfants blancs, c'est ce que vous avez raconté tout à l'heure, et donc il n'y avait pas d'autres enfants noirs. Mais sa mère s'était battue, parce qu'elle était assez battante pour ses droits, et elle s'était battue pour qu'il soit accepté dans cette école, parce qu'elle travaillait dans ce quartier, il n'y avait qu'une école pour enfants blancs, donc voilà. Et il dit, tous les professeurs se montrèrent très bienveillants envers moi, sauf un qui faisait quelquefois des allusions malsonnantes à mon teint de couleur, à la suite desquelles les autres enfants me poursuivaient à coups de pierres et de vieilles boîtes de conserve jusque chez moi. Mais il y avait un petit garçon blanc qui prenait toujours mon parti, d'autres aussi parfois, si bien que tout enfant, j'appris à ne pas détester tous les blancs. Et après, il y a...
C'est bien dit.
Oui, il y a 2-3 passages qui se rejoignent, je trouve. Enfin, il y en a même beaucoup plus. Mais... Et après, il dit « Tantine Reed était chrétienne et me faisait aller à l'église et à l'école du dimanche. Mais oncle Reed, au contraire, était un pécheur impénitent qui ne mettait jamais les pieds à l'église. Et même, il lavait sa salopette le dimanche matin dans une grande marmite au fond de la cour, entre parenthèses, un terrible péché. Puis, il s'installait à fumer sa pipe en été sous la vigne et en hiver sur un banc derrière le fourneau. Mais ils étaient tous deux également bons et gentils, celle qui allait à l'église et celui qui n'y allait pas. Et c'est très certainement d'eux que j'ai appris à aimer également chrétiens et pécheurs.
Mmh.
Et dans la même lignée, je trouve, il retient aussi des leçons de ses professeurs par rapport à cette sagesse, il me semble, qu'il acquiert au travers de toutes ses expériences et de ce qu'il écoute, de ce qu'il capte, des conseils qu'on lui donne. Il dit « Miss Weimer, elle m'a appris qu'il existe des manières d'exprimer ou de présenter sa pensée qui, tout en n'étant pas admises de tout le monde, sont très vraies et très belles et qui finiront à la longue par être reconnues comme telles. » C'est assez étonnant, je trouve, tout au long du livre, ces choix qu'il fait, ce qu'il garde en fait pour construire la propre évolution de sa personnalité.
Mmh. Non, vous avez raison de souligner ces passages parce qu'il donne la clé de son regard en fait.
C'est ça.
Et de ce regard sans acrimonie qu'on évoquait
oui,
plus haut. C'est-à-dire, il évoque des scènes qui sont parfois très dures ou qui pourraient être... ou qui ont été très certainement vécues de façon extrêmement humiliante.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas de commentaires. Et donc on est soi-même livré aux faits, et bien sûr on a son propre jugement, mais lui n'ajoute pas d'acrimonie à la description brute de toutes ces situations.
Oui, c'est ça. C'est toujours ce ton détaché, ouais, pour décrire des situations d'ailleurs de racisme. Et là aussi, oui, c'est étonnant, car ce sont souvent des situations révoltantes. Et cette phrase-là m'a, en fait, on peut presque dire amusée, parce qu'on sent presque quelquefois une... Je ne sais pas, ce n'est pas de la dérision, mais ce qu'il dit, ce ne fut que ma première expérience d'une attitude que je devais rencontrer souvent pendant mes voyages en Amérique. Ce bizarre étonnement que montrent tant de blancs quand ils se trouvent en face d'un noir qui semble s'attendre à ce qu'on le traite avec la même courtoisie que les autres Américains et à jouir des mêmes privilèges qu'eux.
Ouais.
Et oui, et ce bizarre étonnement que montrent les Blancs.
Ouais, ouais. Il y a aussi une scène où il prend le train en rentrant d'un voyage qu'il a fait au Mexique avec son père. Et en fait, on lui demande, je crois, s'il est mexicain ou noir, mmh, parce qu'il est métisse, il a un teint assez clair.
Oui.
D'ailleurs, il y a d'autres scènes intéressantes, mmh, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, sur l'Afrique.
Oui, avec oui. Oui.
Et quand je crois que c'est quelqu'un qui doit le placer dans un train ou le servir, oui, se rend compte qu'il est noir, et bien sûr il va être maltraité. Et il dit, bah voilà, j'étais de retour aux États-Unis. Mais il fait toujours la différence entre certains endroits, des endroits comme Washington où, sans appliquer à la lettre les lois Jim Crow, la ségrégation est quand même patente, et d'autres qui, sans être parfait, comme à New York, on peut tout de même rentrer dans des endroits ou voir des films assis à côté d'un blanc. Il évoque toujours ces différences.
Pour ça, c'est vraiment intéressant aussi, pour, voilà, parce qu'on a maintenant, il y a quand même un siècle, et puis pour ma génération, on en entend parler, mais ça, quand on s'intéresse un peu à tout ça, là, ouais, c'est intéressant d'être dans sa peau, en fait, de le vivre dans sa vie quotidienne.
Et il y a un paradoxe, je trouve, dans le fait que cette situation due au racisme et d'un certain côté nous fait imaginer une vie... où la liberté est restreinte, et d'un autre côté, paradoxalement, on sent une incroyable liberté d'essayer, d'entreprendre, de repartir à zéro chez lui, comme chez d'autres autour de lui. Donc on se dit, du point de vue politique, on a beaucoup progressé, mais du point de vue, je ne sais pas, du courage personnel, de l'émancipation et de l'audace, pas forcément.
Oui, et donc il a eu une vie incroyablement riche, hein, ce Langston Hughes. C'est vraiment c'est fascinant, je trouve. Déjà là, on n'est même pas à la moitié de sa vie, je pense.
Ouais.
Et les rencontres, tous les...
Il est mort à 67 ans et là, il raconte 30 années de vie.
Donc c'est pour ça que ce livre, c'est enrichissant aussi pour nous. Pour nous aujourd'hui, pour nous, quel que soit notre... notre couleur, nos origines, etc. C'est un livre enrichissant, et parce qu'il y a sa vie donc aux États-Unis au début du XXe siècle, mm-hmm, il y a sa vie au Mexique, un mm-hmm, petit peu, quand il, oui, rejoint son père.
Là, on est en plein western, là. Hein. Ah,
oui,
je ne sais,
oui,
pas,
oui,
ce que vous en pensez, mais il y a des scènes incroyables.
Oui, c'est vraiment...
Post-révolutionnaire,
oui,
avec des voyages à dos de cheval, ils croisent des pendus comme dans un film de Sergio,
oui,
Leone,
oui, oui, oui,
il y a des scènes de règlement de compte, des hommes jaloux qui tirent à bout portant sur des femmes innocentes, enfin,
oui, oui,
là c'est rocambolesque.
C'est
et
ça.
Si on ajoute les corridas.
Et puis après, il y a sa vie à Paris, il y a sa vie sur les cargos sur lesquels il, ouais, s'embarque pour travailler. Puis grâce au voyage sur ces cargos, il découvre l'Afrique, mm-hmm, que beaucoup à l'époque aux États-Unis rêvaient de découvrir. Et dans les Africains américains. Et d'ailleurs, en Afrique, il y a des passages vraiment étonnants aussi, pour, ouais, plusieurs raisons, ouais, d'ailleurs. Alors, j'ai noté, par exemple, quand il s'aperçoit qu'on ne le considère pas comme noir,
ouais,
et où il dit « nous sommes en face ». Ah oui, il s'adresse à des Africains, il dit, parce qu'il y avait des escales, puisqu'il travaillait sur ses cargos, il longeait les côtes, et donc, mmh, il descendait quelques jours. Et donc là, il discute et il dit « Nous sommes en face de problèmes presque semblables aux vôtres en Amérique, disais-je aux Africains, spécialement dans le Sud. Je suis un noir, moi aussi. » Et il dit « Mais il ne faisait que rire de cela et hochait la tête et me disait « Toi blanc, toi blanc. »
Ouais.
On sent qu'il est un peu vexé. Et c'est l'époque aussi des colonies. Et là, on traverse tout ça avec lui. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce qu'on traverse au travers de son regard, de ses réflexions qui lui sont inspirées par ce qu'il voit. Mmh. Sur la façon dont les Africains sont traités et travaillent pour les colons. Par exemple, et ça, ce passage m'a beaucoup marqué, il décrit le chargement des poutres d'acajou sur les cargos, des poutres qui pesaient des tonnes, et qu'il fallait faire flotter depuis la rive, emmenés par des attelages humains jusqu'au bateau, où il fallait accrocher les poutres dans le remous des vagues avec des chaînes de fer. Ensuite, il fallait les lever avec une grue, et parfois, un garçon se retrouvait pris entre deux madriers, et il y restait.
Ouais.
Et il décrit « Les regarder me donnait à peu près la même impression que m'avait donné à Mexico le spectacle de Sanchez Merias, tendant avec grâce sa cape rouge devant les cornes d'un taureau. Il y avait le même mélange de beauté et de danger dans le travail que faisaient ces garçons noirs, nageant dans le tumulte des vagues, des chaînes entrechoquées et de ces poutres bondissantes qui deviendraient peut-être un jour piano à queue ou commode, sans que jamais leur propriétaire ne puisse imaginer à quel prix d'énergie, de vies humaines et de morts l'Afrique les avait produits. »
C'est un très beau passage.
C'est assez implacable, je trouve, comme constat. Et ça fait réfléchir, puisque l'on sait qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, des multinationales des pays du Nord, peu regardantes avec leurs sous-traitants des pays du Sud, ont perpétué ce genre de situation. On ne le sait pas toujours, mais maintenant, il y a beaucoup d'ONG qui l'apportent à notre connaissance. Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas tant que ça évolué. Et ce livre, qui est agréable à lire et passionnant, nous bouscule un peu aussi pour tout ça, je trouve, parce qu'il nous oblige à nous poser des questions sur le présent. Sur qu'est-ce qui a vraiment évolué. Quelquefois, on se dit « Ah oui, ça c'est vraiment, c'est loin, maintenant on a dépassé tout ça. » Et puis, assez vite, en fait, on est rattrapé et on se dit « Finalement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. »
C'est vrai. Et je trouve que tout le passage à bord du SS Malone et notamment tout ce cabotage au large des côtes africaines et il y a beaucoup d'autres scènes très intéressantes, notamment avec les missionnaires blancs, qui sont complètement déphasés. Mais il y a aussi parfois des chocs de culture entre les Noirs américains et les Noirs africains. Alors vous évoquiez la question de la couleur, mais on sent qu'il restera toujours extérieur à ce monde africain, en fait. Et il y a une scène, par exemple, souvent les matelots vont à terre quand ils ont leur paye, en tout cas, à la recherche de bars, d'alcool, de femmes, etc. Jusque-là, ça va. Mais en réalité, l'Afrique ne leur ouvre pas ses portes pour aller plus loin que ça. Et il y a une scène où il veut approcher d'une cérémonie, il entend les tambours, du juju, etc. Et en fait, il ne pourra pas y aller, il est rejeté. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi, je trouve, de voir, noir peut-être, mais en réalité, il s'agit bien de deux mondes très distincts.
Et il n'est pas considéré comme un des leurs, ce qui est un petit peu douloureux pour lui, mais comme beaucoup, je crois. Hein. Il y avait souvent de la désillusion et de la déception.
Il y avait ce tailleur noir qui était un adepte de Marcus Garvey, qui était le seul passager qui accompagnait les missionnaires blancs et qui s'était mis en tête d'habiller dignement, entre guillemets, les Africains.
Oui.
Et en fait, il l'a retrouvé, je crois, quelques temps plus tard. Et puis l'autre lui a dit que il avait renoncé à son projet un peu fou.
Oui, parce qu'on sent bien, même si son ton reste toujours détaché, je trouve qu'il a le chic quand même pour pointer les... Il amène le lecteur à prendre lui-même conscience, en fait, de l'arrogance, quoi, des blancs dans cette époque, mais bon, sans commentaire.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que on parlait de mesures et de regards contrastés, il peut être très critique envers les Noirs aussi, notamment la société bourgeoise de Washington, avec ses préjugés, avec laquelle il se sent extrêmement mal, qui voudrait qu'il ait un emploi de bibliothécaire parce que c'est plus chic. Il n'a pas ces préoccupations-là, il n'a pas ce snobisme-là, mais peut-être parce que justement, contrairement à eux qui veulent se défaire de quelque chose, il aime profondément les Noirs, la culture noire. Et donc, juste après ce passage critique envers la bonne société bourgeoise noire de Washington, il évoque l'amour qu'il a pour la 7e rue.
Oui.
Comme il peut évoquer l'amour qu'il a pour les petites gens de Harlem et dans plein de situations aussi, le Sud. Donc, c'est intéressant, je trouve, de voir toujours cette capacité qu'il a de porter un regard juste sur des milieux qui seraient opposés. Et lui, est au centre.
Enfin, oui, c'est l'impression qu'il que ça navigue nous donne. Entre les classes navigue. Sociales. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Quand il est sur les cargos, il est vraiment là avec des mecs qui sont quelquefois assez rustres. Hein, sont vraiment. Et puis pendant la Harlem de Renaissance, il est dans les salles, dans les mondanités en fait. Mais toujours en gardant des accroches sur le terrain. Quoi. On sent qu'il est très attaché à ne pas se déconnecter en fait justement.
D'après ce que j'ai lu, c'était quelqu'un d'assez liant, mais d'assez lisse en même temps et qui donnait pas forcément prise et qui se dévoilait pas forcément. C'est pour ça que son autobiographie a été très attendue. Et finalement, il ne s'y dévoile pas tant que ça.
Ben non,
il décrit le monde.
Il y a beaucoup d'aspects qui manquent.
Il y a quelques scènes où effectivement il évoque des expériences intérieures très fortes, mais il ne s'y dévoile pas tant que ça. Il observe le monde.
Les relations familiales, bon, après la période avec son père, en fait, on n'a pas grand-chose. Les relations affectives, alors là, rien du tout.
Non, c'est tout sauf une confession.
Voilà, donc c'est à travers de son regard qu'on peut un peu comprendre sa personnalité.
Mais on sent qu'il avait une capacité d'adaptation à des milieux très différents, notamment dans l'Harlem Renaissance. Dans les réceptions noires, celle de Alelia Walker, la fille de la créatrice des produits pour décrêper les cheveux, etc., qui fait des fêtes extraordinaires et dont il évoque aussi l'enterrement qui a été le sommet de la Harlem Renaissance, mais aussi dans les fêtes downtown organisées par des blancs comme Karl von Vechten. Mais alors lui, c'est spécial parce qu'il est vraiment profondément dans les deux mondes, mais d'autres sortes de réceptions. Je trouve qu'il a l'air d'être bien partout en fait, Langston.
Oui, peut-être parce qu'il avait pas mal bourlingué déjà en fait. J'ai l'impression comme il observait beaucoup aussi, et donc il avait aussi des liens, on l'a dit, avec la France. Donc il a vécu à Paris et il écrit. J'étais assez surprise. Il écrit ces mots passants, je crois, qui m'a donné le désir de devenir écrivain et d'écrire des récits de la vie des Noirs si vrais qu'on les lise à l'étranger, même après ma mort.
C'est
réussi, c'est même émouvant, je trouve, puisqu'on est tous les deux aujourd'hui réunis pour parler de cette autobiographie où il en parle et combien d'années après.
Ça, c'est vrai. Alors, ça me fait penser à quelque chose d'important. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. C'est qu'il y avait des courants qui s'opposaient, et notamment parce que certains prédécesseurs des écrivains de la Renaissance noire préféraient qu'on dépeigne les Noirs d'une manière plus admissible, plus propre. Quant à lui et ses pairs, il voulait les décrire tels qu'ils étaient, en bien comme en mal, mais justement parce qu'il considère que les Noirs sont comme tout le monde et que donc on assiste chez les Noirs à la même chose que ce à quoi on peut assister chez les Blancs, du vol, de la misère, de la beauté, de la grandeur. Et donc ça, ils ont toujours mis, lui et les écrivains de la Harlem Renaissance, leur point d'honneur à pouvoir décrire aussi ce qu'il pouvait y avoir de plus sombre, de plus compliqué dans le monde noir. Et il y a autre chose, comme vous citiez Maupassant, que j'avais envie de dire.
Oui.
Quand il décide d'être écrivain, il le dit à son père. Et son père, en fait, il est obsédé par la réussite sociale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé au Mexique. C'est qu'il considère, sans doute à juste titre, que c'est difficile de réussir dans les affaires en étant noir aux États-Unis. Mais problème, son père est aussi raciste que les Blancs. Et raciste non seulement envers les Noirs américains, qu'il peut qualifier de nigger, mais envers les Mexicains. Et donc, très vite, Langston Hughes se détourne de son père, qui va finalement déclarer haïr. Et quand il lui dit qu'il veut devenir écrivain, son père lui dit « Mais j'ai jamais entendu parler d'un auteur noir américain qui gagne de l'argent en écrivant. » D'un auteur noir qui gagne de l'argent en écrivant. Et Langston Hughes lui répond « Si, Alexandre Dumas. »
Il avait
une réponse.
Excellent,
qui était toute prête.
Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai lu, je ne sais plus où par contre, mais en faisant mes recherches pour préparer cette interview, que pendant qu'il était chez son père au Mexique, il aurait fait plusieurs tentatives de suicide.
Oui, j'ai lu ça moi aussi, mais il n'en parle pas dans son livre.
Non, il n'en parle pas là-dedans. Non. On ne sait pas si c'est...
En fait, il évoque un moment où tout d'un coup, il ressent un dégoût profond et un abattement profond. Son père lui dit tout le temps de se dépêcher.
Oui.
Et au bout d'un moment, ça devient comme un thème obsédant. Dépêche-toi, c'est ce qu'il dit à tout le monde, à tous les gens qui travaillent pour lui, l'homme de maison indien, la femme de ménage, et à son fils, et à tous les gens du ranch. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Et à un moment donné, il doit l'amener à Mexico. Et finalement, il en rêve d'aller à Mexico. Mais son père le harcèle tellement de bon matin. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alors qu'en plus, il est même pas en retard. Que c'est là-dessus que va se cristalliser toute sa détestation de son père. Et il a un abattement profond. Il va être alité. Il va devoir voir un médecin. Il va rester complètement inactif pendant plusieurs jours. Donc voilà, c'est ce qu'il raconte là de plus grave. Il n'évoque pas la tentative de suicide.
Alors en fait, il est curieux de culture et c'est savoureux en fait, hein, tous ces passages avec toutes ces personnalités incroyables. Et il est là où il faut être à cette époque en fait. Donc il est à Paris, là, voilà, on a parlé, Isadora Duncan, et puis il y a les poètes, les jazzmen, c'est incroyable, toute cette concentration d'artistes. Et il arrive à Harlem, et c'est l'époque donc de ce qu'on appellera la Harlem Renaissance, avec une concentration là aussi d'artistes et d'intellectuels noirs qui gagnent une importante reconnaissance. Une époque qu'il regarde aussi avec beaucoup de recul. Il écrit « À cette époque, en somme, le noir était en vogue ». En quelques mots, je trouve qu'on a tout son détachement là aussi.
Et d'ailleurs, je l'ai mis ça sur le rabat. Et j'ai continué la phrase, j'étais là et je me suis bien amusé, mais je me doutais bien que ça n'allait pas durer. Donc tout de suite, il y a le côté plus inquiétant qui se profile.
Il est toujours très... Alors, est-ce qu'il l'était au moment où il le vivait, ou est-ce que c'est le recul au moment de l'écriture de l'autobiographie qui lui donne cette lucidité? Parce qu'il y a vraiment une lucidité, je trouve, sur le regard qu'il pose, aussi bien là, dans les colonies dont on parlait, que sur la Harlem Renaissance, et sur tous les... Il y a tout un passage aussi où il parle d'un pasteur qui se fait pas
un
mal d'argent.
Un personnage extraordinaire, et encore, ça nous fait penser à nos jours.
Et donc il y a ce chapitre sur les réceptions à Harlem qui est extraordinaire, donc au cœur de cette période très excitante, et où on a une galerie de personnages qui est quand même, et notamment Zora Neale Hurston, qui n'était pas très connue en France, qui l'est un peu plus depuis quelques années.
Elle a été traduite récemment, chez Zulma notamment.
Voilà, d'ailleurs j'ai un de ses livres que je n'ai pas encore lu, mais ça m'a donné envie quand même de m'y plonger. Et en fait là, c'est pareil, si nous en France on n'a pas grand chose, mais il y a beaucoup de matière sur Zora Neale
dans
Hurston,
le livre. Mais il y a une scène remarquable.
Ça se termine d'une façon assez inattendue d'ailleurs, on ne va pas raconter.
C'est vrai que c'est un personnage clé du bouquin, donc peut-être on ne raconte pas la fin, mais on peut évoquer... Oui, parce que c'est quasiment la fin du livre. Hein. Oui. Le livre se termine là-dessus,
sur deux moments difficiles.
Mais un peu plus tôt, au contraire, ce sont des moments très heureux où ils se croisent alors qu'ils sont allés tous les deux dans le sud pour des raisons différentes.
Ils se croisent par hasard.
Et elle, en fait, elle fait des recherches en ethnologie. Et donc elle collecte les folk songs, et au lieu de rentrer comme il l'aurait fait tout seul en train, il va rentrer avec elle en voiture et il va s'arrêter d'étape en étape dans le sud des États-Unis. Et là c'est un road movie.
Tous les
deux, ils vont dans des bars, de temps en temps ils trouvent des créateurs de chansons, de temps en temps pas, et ils nous donnent même la clé. Elle lui dit mais en fait ça se trouve pas comme ça, c'est un véritable travail, c'est pas parce qu'on rentre dans un bar et qu'il y a des gens qui chantent. En réalité, c'est beaucoup de patience, d'obstination, d'attention qui permettent de trouver des choses originales et neuves. Voilà. Et elle faisait partie, comme lui, des membres clés de cette Harlem Renaissance, cette Zora Hurston, ou Zora Neale Hurston.
Un esprit très libre aussi.
Ouais, hein, personnage.
C'est incroyable, parce que Josephine Baker, qu'on connaît bien maintenant ici, mais c'est quand même la marque, quoi, je trouve, le dénominateur commun, ces esprits.
C'est vrai, liberté.
Oui. Et il y a deux chapitres, donc, dans la seconde partie du livre, qui sont reliés, et qui se suivent, et qui m'ont vraiment frappée pour les analyses qu'il y livre. Mais aussi, à nouveau, pour un parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui, ce sont les chapitres « Poésie et le paradis des nègres ». Donc le premier porte sur le titre d'un de ses livres, à lui, Langston Hughes, et le second sur le titre d'un livre donc de Monsieur Van Vechten.
Karl Van Vechten.
Van Vechten.
Et qui est effectivement « Nigger's Heaven », donc traduction littérale, « Le paradis des nègres ».
Voilà, deux livres donc, dont les titres ont été pris au premier degré par des critiques, et un public aussi, qui ne s'était peut-être même pas donné la peine de les lire. Et cette mauvaise compréhension, cette compréhension superficielle, pour les deux, a entraîné un déluge d'attaques et de mauvaises critiques. Mmh. Et le processus qu'il décrit assez consciencieusement rappelle, je trouve, vraiment les épisodes de bashing aujourd'hui ou de shitstorm, ce qu'on appelle les shitstorms, ces déluges d'attaques sur les réseaux sociaux qui partent sur tout et n'importe quoi et souvent sur n'importe quoi.
Là, les deux ouvrages dont vous parlez, donc on a cité Le Paradis des Nègres. Et le titre de l'ouvrage qui a été contesté de Langston Hughes, c'est Fine Clothes to the Jew. Et ça veut dire mes beaux habits chez le juif. Lui dit qu'il ne l'avait pas mis dans une intention, bien entendu, antisémite ou quoi que ce soit, mais que le juif, c'était dans le langage courant une manière de dire, parce que souvent c'était le cas, l'usurier, enfin la personne qui prend les habits, enfin comment on dit, prêteur sur gage, je ne sais plus.
Oui, oui, ils allaient déposer quand ils n'avaient plus d'argent.
Il reconnaît que c'était pas très habile de sa part. Et il dit, je regrette que Karl von Vechten, qui m'a accompagné avec bienveillance dans l'édition de l'ouvrage, et mon éditeur Knopf, qui en plus est juif Knopf, m'ait pas dit c'est pas une très bonne idée ton titre. Et du coup ça m'amène à autre chose et qui est en guise de d'explication réconciliatrice. Il explique que chaque année chez Karl von Vechten, il y avait un anniversaire avec un gâteau aux trois couleurs du drapeau américain pour, il me semble, Karl von Vechten lui-même, Weldon Johnson, un auteur noir américain, et Knopf, juif américain. Et Langston Hughes dit qu'il savait que les trois étaient très très amis et qu'ils avaient toujours leur anniversaire en même temps qui était fêté chez Karl von Vechten, et avec ses couleurs américaines, et que c'est finalement seulement plus tard, avec du recul, qu'il a vu à quel point tout ça avait un sens politique profond de volonté d'intégration et d'amitié en fait envers différentes catégories de la population.
Alors je ne sais pas si vous pourriez nous dire quelques mots de... Moi j'ai été très, très marquée aussi par les chapitres enquête et surtout le... Comment il appelle ça, pas postface, peuple primitif.
Postface, ouais, peuple primitif, bah oui. En fait,
c'est vraiment étonnant,
le peuple primitif, la question c'est qu'effectivement ça mécène. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne cite pas son nom dans l'ouvrage, c'est-à-dire que la brouille qu'il évoque avec elle était encore sans doute si douloureuse à évoquer qu'il a choisi de ne pas donner son nom en 1940. En réalité, ceux qui connaissaient un peu son histoire savaient bien que c'était Charlotte Mason qui a été mécène notamment de la Renaissance de Harlem. Et elle l'a appuyé, un point qui a fait que voilà, il a noué avec elle, au-delà du mécénat, une relation d'une profondeur intellectuelle et d'une grande, grande amitié, et s'est senti rejeté par elle. Alors, pour plusieurs raisons apparemment. D'abord, il a cessé de produire pendant un moment. Et une autre raison qui est liée à ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc je vais un peu dévoiler le poteau rose, mais c'est aussi une brouille avec Zora Neale Hurston, qui était aussi... encouragé par Charlotte Mason, et donc en fait sans doute la brouille entre Langston Hughes et Zora Neale Hurston a fait que Charlotte Mason a pris le parti de l'une contre l'autre. D'accord. Et la troisième raison plus fondamentale, c'est que Charlotte Mason avait une certaine vision de la création artistique noire américaine, en laquelle elle voulait voir un primitivisme positif qui pouvait jouer un rôle au sein de la culture américaine en général, pour un peu permettre à tous de revenir à des valeurs peut-être perdues de vue par la culture occidentale et qu'on retrouve dans le blues, dans la culture noire américaine. Bon, pour lui, c'était manifestement un peu réducteur. Et quand il a voulu s'en détacher, de même que quand il a critiqué dans des poésies qui étaient clairement politiques à l'encontre de politiques de ségrégation, elle a dû trouver qu'il allait trop loin. Bref, on sent que quand même, il y avait une limite à pas franchir. Et je ne sais pas si vous avez noté le passage, mais il dit « Malheureusement, on s'est retrouvé en butte aux problèmes qui surgissent souvent entre noirs et blancs aux États-Unis ». Quoi qu'il arrive, sur ces questions-là.
Oui, oui, oui. L'enquête, c'était par rapport à l'enquête à l'université.
De Fisk, ouais.
Oui.
Et sur le fait que l'université ne favorisait pas l'émergence et la nomination de professeurs noirs au sein d'universités pour les noirs.
Il dit, je voulais prouver que les étudiants avaient tort de croire cela, parce qu'en fait, ils semblaient accepter l'idée que les professeurs blancs avaient par nature une supériorité sur les professeurs noirs. C'est apparemment une université qui était destinée à aider une élite noire à émerger, voilà. Et il dit, je voulais prouver que les étudiants avaient tort de croire cela et que Lincoln, donc le nom de l'université, encourageait inconsciemment peut-être un sentiment d'infériorité chez les hommes parmi lesquels l'université cherchait à former une élite. Ce que je voulais prouver, c'était le mal causé par la distinction de couleur à l'université comme ailleurs.
Ce que je trouve incroyable, c'est à la fois dans ce travail qu'il a voulu faire et dans le fait qu'il le mentionne en lui accordant toute cette place dans son ouvrage, on voit que quelle que soit la mesure de son jugement, il ne laisse aucun sujet non traité.
Oui.
Et c'est intéressant, je trouve, qu'à la fin d'un ouvrage autobiographique, il nous explique assez précisément le résultat de son enquête en se citant lui-même, en citant le rapport qu'il a fait. Et j'ai retrouvé le passage que j'évoquais tout à l'heure.
Oui.
Elle aurait voulu, donc sa protectrice, que je sois un véritable primitif avec les intuitions d'un primitif. Mais malheureusement, je ne sentais pas palpiter en moi les rythmes du monde primitif, de sorte que je ne pouvais pas vivre et écrire comme si je les avais sentis. Je n'étais qu'un noir d'Amérique qui avait aimé le sol africain et les rythmes africains, mais je n'étais pas l'Afrique. J'étais simplement Chicago et Kansas City et Broadway et Harlem. Et par conséquent, je n'étais pas ce qu'elle aurait voulu que je sois, si bien qu'en fin de compte, nous nous sommes retrouvés devant la vieille impasse qui oppose les blancs aux noirs, blancs et noirs, l'éternel antagonisme qui divise l'Amérique. Voilà, ça c'est, je crois, d'une modernité confondante.
C'est ça qui est triste, ouais. En fait. Hein. Ouais. C'est que y a beaucoup de passages où, voilà, puisque là encore, aujourd'hui, c'est encore le cas. Dans le cinéma, dans la musique, moi j'ai eu pas mal d'amis qui se sont retrouvés à aller à des castings ou à arriver à signer avec une maison de disques et qu'on leur dise oui mais alors là tu vois si tu voilà. pouvais rentrer un peu dans le moule de
voir en tant que noir avant de voir en tant que comédien par exemple.
Voilà, et donc il faut que ça soit exotique, ouais. Il faut que ce soit l'Afrique, il faut que ce soit il faut que ce soit primitif aussi tous ces clichés en fait un siècle plus tard et on les a encore hein, quand même.
On a beau mettre en avant à juste titre le côté joyeux, voire prime sautier dans certains passages de son autobiographie, il dit les choses, il dit « blanc et noir, l'éternel antagonisme qui divise l'Amérique ».
Alors pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur ce livre, Antoine Caro ?
Que Langston Hughes, vous m'interrogiez au début sur mon lien avec Segers au sein de Robert Laffont, donc en fait... Langston Hughes est un nom qui était flou pour moi, mais qui avait une certaine image, une certaine résonance. Je savais que c'était un auteur américain, sans doute, je savais que c'était un auteur noir américain. C'était un peu comme une promesse. Je savais peut-être qu'un jour j'irais vers Langston Hughes, ça m'intéressait. Mais il m'a fallu, pour franchir un pas, lire ce que Colette Segers a écrit sur la relation entre son mari et Langston Hughes, pour que je commande ce bouquin que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai véritablement un coup de foudre pour ce texte, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, cette lucidité et cet esprit chaleureux d'un autre côté, je trouve qu'il y a un mélange assez rare qui me rend la voix de Langston Hughes incroyablement précieuse et sympathique. Et je dis ça sympathique parce que je sais que Montaigne dit que lire les auteurs du passé, c'est comme une conversation avec des amis disparus d'une certaine manière, mais bien présents par leur texte. Et c'est ce que je ressens quand je lis Langston Hughes, un sentiment amical envers cet homme dont je me sens incroyablement proche en fait. Je l'ai lu et je l'ai beaucoup relu en travaillant sur l'édition de ce texte, et j'ai toujours le même plaisir à relire les passages, ce qui m'étonne d'une certaine manière parce que on évoquait tout à l'heure le côté direct et simple de sa prose. On l'a comparé à celle de Hemingway, à celle de Mark Twain qu'il admirait beaucoup. Mais en réalité, je trouve qu'il y a une grande profondeur qui se cache derrière la précision de cette prose et le soin et la vérité qu'il attache à ses descriptions font que je trouve que c'est un livre qu'on peut non seulement lire, mais relire avec beaucoup de plaisir.
Oui, et sûrement redécouvrir des choses. Et moi aussi, c'est vraiment la profondeur qui m'a étonnée. C'est pas vraiment le mot, mais en fait, plus j'avançais dans le livre et plus je découvrais des aspects de sa personnalité. Il faut dire que plus on avance et plus on quitte les années de jeunesse et plus les analyses sont toujours avec ce ton distant, avec un peu, quelquefois, souvent même de l'humour, mais de plus en plus de profondeur et des analyses, d'une lucidité qui sont vraiment... parce que même si c'était avec un peu de recul, lui, il était encore au cœur de tout ce qu'il décrit quand même, que nous... on a un siècle plus tard. Mais je voulais vous demander par rapport à ce livre-là qui est à côté de nous, cette très vieille édition, ça veut dire qu'en fait, vous dites que vous avez dû le commander pour le lire. Il n'y avait pas dans les archives de Segers,
il n'y avait pas la totalité, hélas, des livres Segers. Donc dans certains cas,
d'accord, on les commande.
Et en fait, ces trois livres que vous voyez là, que j'évoquais au début, les poèmes de Langston Hughes, une sélection de poèmes dans la collection Autour du Monde qui publiait les poètes étrangers chez Segers, et le Langston Hughes, poète d'aujourd'hui, ben je ne les avais pas dans nos étagères, alors je les ai commandés.
D'accord.
Et voilà, ça a été un précieux outil de travail aussi.
Oui, puis c'est assez... moi, j'ai fait ça pour James Baldwin. J'ai récupéré plein de vieux Baldwin, y compris j'en ai fait venir des États-Unis sur des sites d'occasion et tout, qui n'étaient pas édités en France. Et c'est très touchant, je trouve, d'avoir ce vieux papier et de se dire que les gens qui l'ont... Les yeux qui se sont posés dessus à l'époque étaient au cœur de l'époque que nous, on a maintenant des décennies. On est des décennies plus tard, quoi, mais... c'était tout un... Et elle est belle, la photo, là.
Alors,
sur le livre.
C'est une photo qui appartient au fond, qui possède en réalité la quasi-totalité des documents concernant Langston Hughes, qui est à l'université de Yale. Et en fait, c'est une photo...
Sur The Big Sea. Il faut quand même que je me souvienne que nous avons des auditrices et auditeurs qui ne voient pas...
C'est une photo qui est tout juste postérieure au moment où le livre s'arrête, qui doit dater de 1931 ou 32, où il a fait son voyage en Union soviétique. Et en fait, là, vous voyez le visage de Langston Hughes qui regarde avec un regard d'une incroyable beauté, droit à l'objectif. Il est en train d'ouvrir la traduction en russe de son livre The Weary Blues, en tout cas une traduction d'un de ses livres.
D'accord.
Et voilà, donc c'est une photo rare qui appartient au fond de la Yale University.
C'est vraiment, on sent toute sa délicatesse d'esprit, je trouve, dans cette photo. Voilà.
Je suis ravie qu'elle vous plaise parce qu'elle me plaît beaucoup à moi aussi. Ah oui, vraiment, je tenais beaucoup à voir cette photo.
Elle est vraiment belle.
Oui.
Antoine Caro, un grand merci.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Je voulais rappeler, si vous le permettez, avec humilité, que vous-même, avec humilité, avant l'interview, m'avez dit, oui, c'est parce que je vous ai dit, c'est pas facile de me faire. J'avais très envie de parler de ce livre. Malheureusement, l'auteur n'est plus de ce monde, donc il fallait trouver. Et vous avez accepté très gentiment de vous prêter au jeu, ce qui n'est pas facile.
Ni traducteur, ni même spécialiste de la littérature américaine. Voilà,
on a fait ce qu'on a pu.
Mon goût pour cet ouvrage et pour cet auteur.
Et en tout cas avec passion, et j'espère aussi, mon modeste niveau, moi qui ne suis pas, qui aime beaucoup toute cette époque et cette littérature, mais qui ne suis pas une experte non plus. Donc j'espère qu'on, chers amis qui nous écoutez, qu'on vous aura donné envie de lire ce livre qui s'appelle The Big Sea, une autobiographie, donc de Langston Hughes aux éditions Segers.
Merci beaucoup.
Voilà, je mettrai le lien vers Librairies Indépendantes pour que nos auditrices et auditeurs puissent l'acquérir.
Merci pour tous vos commentaires, vos analyses et puis tous ces passages que vous avez lus de notre ouvrage. Merci mille fois.
Merci à vous. Bonne continuation.
Merci.
Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.